Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Au lendemain d'un Conseil européen où les dirigeants des 27 pays de l'Union ont entamé les premières négociations sur un plan de relance post-coronavirus de 750 milliards d'euros et à la veille d'un sommet Union européenne-Chine, nous recevons le commissaire européen en charge du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense, du spatial, du tourisme et de l'audiovisuel. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
De cette longue énumération de vos compétences, en aurais-je oublié une ?
Non, je ne crois pas.
Thierry Breton, à défaut d'être le maître du monde, vous voilà depuis octobre dernier propulsé super commissaire européen, une lourde charge ?
Une charge très importante pour l'Europe, j'en ai parfaitement conscience, croyez-moi, mais c'est aussi un grand honneur.
Oui, Thierry Breton, vous avez 65 ans, une formation d'ingénieur et une carrière essentiellement d'industriel, président de Thomson, de France Télécom, d'Atos, un groupe mondial de services informatiques, avec une incursion remarquée dans la politique. De 2005 à 2007, vous êtes ministre de l'économie et des finances et vous voilà à un âge où beaucoup aspirent à une retraite forcément bien méritée, le premier grand patron commissaire européen, un patron très politique dans l'univers policé de la Commission européenne, à un moment historique où le monde en général et l'Union européenne en particulier connaissent une crise d'une ampleur inégalée. Vous avez été surpris par l'organisation de la Commission européenne où finalement c'est comme une multinationale.
Prenez bien ce que je vais vous dire. Dans la façon dont vous venez de me présenter, j'y suis très sensible, vous avez omis le passage qui était peut-être le plus important pour moi. Quand j'ai enseigné effectivement dans une université américaine pendant 2 ans, la gouvernance. C'était lorsque j'ai quitté le gouvernement en tant que ministre des Finances et avant de reprendre des fonctions plus opérationnelles. Pendant 2 ans, oui, j'ai enseigné la gouvernance. Et voyez-vous, ça me permet de répondre à votre question. Pour l'avoir enseigné, avoir énormément réfléchi à la gouvernance en tant que ministre, j'étais ministre d'un très grand ministère, en tant que chef d'entreprise, je crois pouvoir vous dire que ça m'aide dans mes fonctions actuelles.
Alors j'aurais pu dire aussi que vous avez été un auteur relativement prolifique, et notamment de science-fiction, hein, j'aurais pu aussi dire ça.
Non, mais ça c'est
c'est plus anecdotique. D'accord. À mes côtés, pour vous interroger, 2 journalistes européens chevronnés. Bonjour Nora Hammadi.
Bonjour.
Vous présentez sur Arte l'émission européenne Vox Post. D'ailleurs, ce sera juste après Carrefour de l'Europe, à 20h05 sur Arte. Et quelque part entre Rome et Paris, Paolo Levi, correspondant de l'agence italienne de presse ANSA. Bonsoir Paolo.
Bonsoir à vous. Bonsoir au commissaire.
Je vois sur l'écran des drapeaux qui flottent, un drapeau européen, un drapeau français, un drapeau italien. Nous sommes dans un monde très européen et comme il pleut, vous avez mis un petit ciré, il me semble. En tout cas,
de couleur européenne également, vous aurez remarqué, Daniel.
Exactement.
Jaune comme les étoiles de notre beau continent.
Exactement. Alors, vous nous écoutez comme d'habitude sur le réseau mondial de RFI, mais nouveauté, vous pouvez regarder ce Carrefour de l'Europe en vidéo en Facebook Live via la page Facebook de RFI où vous avez déjà près de 5 millions d'abonnés et bien sûr sur la page Facebook de Carrefour de l'Europe. Thierry Breton, on a l'habitude de dire que l'Europe se construit dans la crise. Cette remarque paraît plus vraie que jamais. Face à la pandémie du coronavirus, les Européens d'abord sidérés ont refermé leurs frontières en ordre dispersé et pratiqué un chacun pour soi quelque peu désastreux pour l'image de l'Europe. Mais rapidement, les institutions européennes, Commission, BCE, Banque Centrale Européenne, ont débloqué des milliards d'euros pour faire face à l'urgence, des fonds qui vont aider par exemple à financer le chômage partiel. Et le 18 mai dernier, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont lancé une initiative, un emprunt commun des Européens de 500 milliards d'euros pour relancer l'économie du continent en grand péril. Qui dit emprunt commun dit dette commune, et c'est là plus qu'une nouveauté, c'est une petite révolution, car jusqu'alors la chancelière Merkel n'avait refusé l'idée que l'Union européenne partage une dette. Alors Thierry Breton, qu'est-ce qui, selon vous, a fait changer la chancelière Merkel ?
Si vous permettez, Daniel Desesquelles, un petit mot sur la présentation que vous faites et qui est très très couramment faite sur le début de cette crise. Je ne le critique pas, je le constate. L'Europe a été absente, l'Europe a été désordonnée. Avez-vous dit, du reste, pour reprendre vos mots, ça a donné une très mauvaise image. Eh bien, voyez-vous, quand je compare la façon dont notre continent a pris à bras-le-corps cette crise tellement inédite, par rapport aux autres. Et je pense en particulier à la Chine, mais je pense aussi aux États-Unis. Je trouve que on est, je n'ai pas peur de le dire, assez exemplaire. Je prends un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Est-ce qu'à un moment on a dit les États-Unis vont exploser parce que la frontière du New Jersey s'est fermée du jour au lendemain? On pouvait plus aller dans le Connecticut sans traverser la garde armée. Le Nevada était ouvert alors que la Californie était tellement fermée que Elon Musk voulait déplacer ses usines pour les mettre. Une cacophonie. Mais voilà, je n'en tire aucun commentaire autre que celui que tout le monde a été pris par surprise. Les premiers, c'était les Chinois. Ils ont été tellement pris par surprise qu'ils nous ont appelés au secours, Daniel Sénéquel. Au secours! Au secours en mois de janvier.
C'est vrai que les Européens ont envoyé très rapidement 50, un ou deux avions.
52 tonnes de matériel, de masques, de gants, de respirateurs artificiels.
Mais
ils
l'ont fait très discrètement.
Oui, on nous l'a demandé. C'est un peu notre style à nous. On fait attention de ne pas froisser et on est très respectueux de nos partenaires. Donc ils nous ont demandé cette discrétion et on a livré, dans le courant du mois de janvier, ce qu'on nous demandait, y compris des moyens financiers pour bâtir des hôpitaux. Et si je vous dis ça, c'est que tout le monde a été tellement pris par surprise que effectivement les premiers réflexes ont été
un
chacun pour soi, mais qui a duré. Et je suis assez bien placé pour le savoir puisque ça a été ma première mission très vite d'aller parler avec le ministre allemand qui avait décidé de fermer ses frontières le 5 mars, le ministre français qui l'avait fait lui le 4 mars et quelques autres. Et puis au bout de quelques jours seulement, on a rouvert les frontières parce que nous avons des règles. Parce que nous avons des directives, parce que nous avons des codes, et que au nom de ces codes, et croyez-moi, je sais moi qui l'ai fait, je leur ai dit, écoutez, c'est pas possible, il faut le faire, faut de quoi nous allons devoir agir, et vous serez sanctionnés, et en dix jours, ces frontières se sont rouvertes,
pour les marchandises. Elles se sont ouvertes pour les capitaux, mais pas pour les individus. Il a même fallu faire des ponts aériens.
Ça, c'est autre
Donc,
chose.
Oui, pour mais les... de quoi parlons-nous? Quand on parle de frontières ouvertes, autant être clair. Les Européens n'ont pas pu traverser les frontières.
Le marché intérieur continue à fonctionner.
Là, si vous permettez, je crois qu'il y a une toute petite confusion entre d'abord, effectivement, ce qui s'est passé sur le marché intérieur, et puis derrière, madame, sur les aspects de sanitaire. C'est-à-dire que sur les aspects de santé, les zones, effectivement, qui ont été très touchées, se sont fermées. Comme un peu la région du Rouen, qui s'est fermée elle-même. Comme un peu la Lombardie, qui s'est fermée elle-même. Oui, vous avez raison. Compte tenu du fait que la pandémie s'est développée de façon extrêmement rapide dans certains foyers, ces zones se sont fermées. Puis ensuite, effectivement, certaines frontières. Mais, madame... C'est encore le cas aujourd'hui en Grande-Bretagne, le fameux Royaume-Uni. Il est uni aujourd'hui. Il y a une dynamique totalement différente entre l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande du Nord. Je ne critique pas. Je dis simplement qu'il y avait à côté d'effectivement la libre circulation des marchandises et surtout des produits santé que l'on a rendu libres quasiment immédiatement. Il y a effectivement ensuite la gestion de la pandémie humaine, sanitaire, si je voulais dire.
Alors ma question, c'était, qu'est-ce qui a fait changer Angela Merkel? Elle était très rétive à l'idée d'avoir une dette commune aux 27 pays de l'Union européenne, et puis soudain, peut-être convaincue par Emmanuel Macron, elle a accepté ce qu'elle avait toujours refusé jusqu'alors.
D'abord, il faut être très, très, très objectif et lucide sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe. C'est vrai que le président de la République, Emmanuel Macron, depuis le début, a plaidé, et vous le savez, pour essayer de faire en sorte que nous puissions bénéficier d'un endettement commun, d'une dette commune. Mais pourquoi?
Dès son élection d'octobre 2017.
Oui, mais pourquoi? Et surtout dans cet instant particulier, tellement singulier, que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, sur notre continent européen, mais aussi sur la planète. Eh bien, tout simplement parce que cette crise, elle est évidemment par définition conjoncturelle. Et elle frappe tout le monde, alors évidemment à des degrés divers, en fonction évidemment des degrés d'évolution de la pandémie, mais tout le monde est frappé. Et voyez-vous, il n'y a pas un seul pays sur la planète, pas un seul pays qui a le premier euro ou dollar vaillant pour faire face à cette pandémie. En d'autres termes, tous vont devoir emprunter pour gérer les conséquences économiques et sociales d'un arrêt, quand même, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, décidé par les autorités politiques, tout simplement pour des raisons de santé, et ils ont raison de le faire. cette décision volontaire d'arrêter l'économie. Et évidemment, c'est aux États d'en assurer la conséquence. C'est normal. Et c'est, je crois, ce qui a vraiment fait changer d'avis la chancelière. Je ne sais pas si on peut dire fait changer d'avis. En tout cas, je sais, pour en avoir discuté, qu'elle a vraiment pris ça en compte. À savoir, il était anormal que, pour notre continent, puisque chacun va devoir s'endetter pour faire face à la crise, que certains puissent le faire plus facilement que d'autres. Et c'est là où l'équité joue entre nous, c'est là où la solidarité joue entre nous, et c'est là où effectivement, eh bien, il faut avoir un instrument qui va pouvoir permettre à tous d'avoir un accès identique à ces endettements nécessaires, que ce soit les Allemands, que ce soit les Néerlandais, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, les Français ou les Autrichiens.
Alors cette initiative franco-allemande a donné naissance, à la série de tremplin, au plan de relance de la Commission européenne, 750 milliards d'euros, oui. 500 milliards de dons, de subventions, de transferts, je ne sais pas quel est le bon mot.
Subventions.
Subventions. Et 250 milliards de prêts à très bas taux. Alors... Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quatre pays qui sont un petit peu en désaccord. On va les citer. On les appelle les frugaux, les radins. Ça dépend qui parle. Par exemple, Enrico Letta, qui était à ce micro il n'y a pas très longtemps, préférait parler des radins, l'ancien premier ministre italien. Donc, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et
l'Autriche.
Voilà. Alors, ça représente environ 10% de la population. C'est pas énorme. Est-ce qu'ils sont en mesure de faire capoter ce plan de relance?
Non. Très honnêtement, d'abord, je les entends, j'ai été moi-même ministre des Finances, et je sais ce qu'ils disent ensemble. Que disent-ils au fond? Ils disent tout simplement que si jamais il s'agit d'opérer des transferts, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ont, entre guillemets, bien géré, mais on pourra revenir sur cette notion si vous me donnez une minute, qui ont bien géré par rapport à ceux qui sont supposés, je dis bien supposés, parce que là encore il y a beaucoup de choses à dire, mais même je vais vous le dire tout de suite, parce qu'en fait, les pays que vous venez de citer, je n'aime pas les qualifier, donc vous ne m'entendrez pas les qualifier.
Même pas frugaux.
Non, je n'aime pas les qualifier, parce que voilà, chacun.
Allez, les
chacun,
quatre.
Ces quatre pays que vous venez de rappeler, ils doivent savoir aussi que les cinq autres, ceux qu'on qualifie de pays plus du Sud, certains leur donnent même un qualificatif touristique.
Les pays du Club Med.
Voilà, vous l'avez dit, madame. Voilà, c'est pas moi qui le dis, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui d'abord? C'est l'Espagne. C'est la France. C'est l'Italie. C'est la Grèce. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils protègent les frontières du Sud de l'Europe. Et voyez-vous, si je prends les quatre pays que vous avez cités, et j'y ajoute l'Allemagne, qui vient de changer d'avis, et je prends, ça fait cinq, et les cinq pays que je viens de citer, qui protègent les frontières sud de l'Europe, depuis la création de la zone euro, les pays du Sud ont dépensé 2000 milliards pour défendre l'Europe, pour la défense, et donc, entre autres, pour défendre les frontières sud de l'Europe. Les cinq autres, ils ont dépensé 1000 milliards. Donc vous voyez, la moitié. Et si on le rapporte par rapport au PIB de 2009, là encore, on trouve un facteur 2. Donc, soyons très prudents quand on qualifie de bien géré et mal géré. Mais revenons à votre question, si vous le voulez bien. Oui, c'est vrai qu'ils ont peur, et c'est vrai que vis-à-vis des opinions publiques, de dire, eh bien c'est nous, dont on nous dit qu'on a bien géré, et on voit qu'on peut nuancer, qui vont payer pour les autres. Eh bien là, on peut entendre ça. C'est normal, en démocratie, c'est quelque chose, vous savez, lorsque vous êtes chef de gouvernement des Pays-Bas ou de l'Autriche, c'est quelque chose que vous devez entendre. La réalité, elle n'est plus là. Et on a construit précisément un instrument pour éviter cela. Si vous me donnez une seconde, je crois que c'est très important pour nos auditeurs. La Commission va effectivement, c'est ce qu'on propose, s'endetter à hauteur de 500 milliards d'euros. Je vous expliquerai ensuite sur les 250 milliards, ils sont totalement différents. Retenons uniquement les 500 milliards d'euros qui ont vocation à être redistribués en subventions pour soutenir les économies qui ont été abîmées par la crise. 500 milliards d'euros vont être empruntés sur les marchés. Maturité, 30 ans, c'est-à-dire qu'ils seront remboursés dans 30 ans. Coût de la dette aujourd'hui, on le sait, c'est quasiment zéro. Ça ne va donc pas impacter les budgets pendant 30 ans. Évidemment, il faudra rembourser. Et là, eh bien, nous proposons progressivement de mettre des taxes aux frontières, surtout pas d'impôts sur les sur nos concitoyens européens, des taxes aux frontières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de l'Europe fonctionne déjà par les taxes aux frontières, les droits de douane. Tous nos auditeurs savent ce que c'est que les droits de douane. Eh bien, les droits de douane, ça ne va pas abonder les budgets des États membres. Les droits de douane vont directement à l'Union européenne. Parce que c'est effectivement ce qu'il faut payer lorsque l'on rentre pour bénéficier du marché intérieur. Eh bien, nous proposons une taxe CO2, par exemple, pour le carbone, une taxe numérique aussi. Donc, il y aura des...
Une taxe sur les multinationales.
Non, je m'arrête là. Je dis uniquement ces deux taxes. Il y en aura, vous savez, on parle de 30 ans. Donc, il va y avoir des ressources propres qui vont être créées et qui rembourseront progressivement cet emprunt, mais ce ne seront pas les contribuables autrichiens, néerlandais, danois ou suédois.
Nora m'a dit.
Sauf que ces pays dits frugaux ne sont même pas d'accord sur l'éventualité de mettre en place ces ressources propres. Donc, on voit bien que l'édifice que vous êtes en train de construire, il n'est pas du tout majoritaire. Donc, quand bien même vous arriveriez à mettre en place un système de subventions, etc. Quand bien même on repousse la dette, les Espagnols avaient proposé la possibilité d'une dette perpétuelle, voilà, qu'on ne rembourserait jamais. Ces ressources propres, et vous ne nous avez pas cité la taxe sur les GAFA qui est portée pourtant...
Si, j'ai dit le numérique. C'est évidemment sous-entendu, bien entendu.
Bon. Ces ressources propres, ces pays les refusent. Donc, de fait, est-ce que ça ne risque pas de retomber une fois de plus sur le citoyen européen ?
Non, certainement pas. Certainement pas, vous n'aurez jamais d'accord, jamais, pour avoir, je rappelle qu'il faut la majorité pour la fiscalité, l'unanimité pardon pour la fiscalité, vous n'aurez jamais d'accord pour une taxe européenne sur les citoyens européens. Donc je vous rassure tout de suite ce soir. En revanche, juste si vous permettez...
Vous allez convaincre les quatre.
Non, je vais juste rebondir parce que vous venez de dire, vous avez cité ces quatre et vous dites donc ils n'ont pas la majorité. Non, c'est pas vrai. S'il n'y en a que quatre sur 27, ils ont largement la majorité. Mmh. Croyez-moi, il y a largement la majorité. Il n'en reste donc plus que, pour reprendre les choses par étapes, il n'en reste donc plus que quatre. Et je sais, pour avoir beaucoup discuté avec eux, qu'ils rentrent complètement, ils sont effectivement soulagés. Parce que je viens de vous dire, parce qu'encore une fois, il ne s'agit plus de créer de l'impôt national pour financer cela, il ne s'agit plus d'aller dire que c'est les pays les mieux gérés qui vont payer pour les pays les moins bien gérés. En revanche, il y a effectivement la discussion maintenant sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, appelés couramment taxe CO2. C'est normal, nous avons un pacte vert qui donne une ambition extraordinaire pour notre continent, c'est-à-dire d'être zéro carbone émission à l'horizon 2050. C'est un mouvement là aussi considérable qui va nécessiter des investissements importants. Il est parfaitement normal que les produits qui intègrent le marché intérieur et qui n'auraient pas suivi ces contraintes payent le différentiel. Et ne serait-ce que pour maintenir la compétitivité, ce qu'on appelle en anglais le level playing field entre le continent européen et les autres. Donc il y aura effectivement ce mécanisme. Quant à la taxe sur les plateformes numériques, elle existera. Nous sommes en train de discuter aujourd'hui
dans même le cadre si dans les le cadre Américains sont évidemment très
dans le cadre de l'OCDE
évidemment.
Avec tous nos amis européens. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté.
C'est pas une négociation qui progresse très vite.
Mais elle progresse parce qu'on est maintenant quasiment à arriver à un accord. C'est vrai que les Américains ont demandé et ils avaient raison que ça se passe dans le cadre de l'OCDE. Vous avez vu que Monsieur Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a fait savoir qu'il voulait quitter la table de négociation. Bon, moi, j'en ai fait dans ma vie des négociations, vous savez.
Et des effets de manche.
Ça court, non, des négociations. Ça court. Ça court jusqu'au 31 décembre. Bien entendu, on sort de la salle, on va consulter, on revient. Ils sont les bienvenus. Ils pourront revenir en septembre, en octobre, pourquoi pas en novembre et peut-être même en décembre. Et on verra bien à ce moment-là.
Mais ça fait débat au sein de l'Europe également.
Bien sûr, et si jamais, et nous l'avons dit très clairement, et si jamais il n'y a pas d'accord dans le cadre de l'OCDE, notre proposition avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire européen que Monsieur Lévy connaît parfaitement bien à l'économie, ancien Premier ministre italien, eh bien la proposition, elle est prête, elle sera mise sur la table. Voilà, on ne menace personne, on dit que c'est juste normal. Et pas uniquement les plateformes américaines, par parenthèse. Les grandes plateformes, il y a aussi de grandes plateformes chinoises. Tout le monde
évidemment
connaît TikTok, Alibaba, etc. Tout le monde sera mis à la même enseigne. Il est parfaitement normal que dans cet espace informationnel, on paye son juste impôt. Nos auditeurs le comprennent aisément.
Alors vous avez employé une formule qui mérite d'être développée, d'expliquer. C'est vous, hein, je vous cite, Thierry Breton. La dette, c'est le nouveau pétrole économique, y compris pour l'Allemagne et les pays du Nord. Alors, après le « enrichissez-vous » de François Guizot, ministre des Finances de Louis-Philippe, est-ce qu'il y aurait désormais le « endettez-vous » de Thierry Breton ?
D'abord, si vous permettez, vous voyez, vous me faites parler, je ne voulais pas le faire, mais enfin, vous me faites parler d'un de mes livres que j'avais écrit en quittant Bercy, qui s'appelait « Antidette ». Vous voyez, pas « antidote », mais « antidette ». Parce que je suis contre la dette. Et j'ai toujours été contre les mauvaises dettes. Et j'ai estimé précisément que lorsque moi-même ministre, j'ai voulu vraiment que nous réduisions la dette de la France, c'était pour préserver les générations à venir, et c'est, me semble-t-il, la responsabilité d'un homme public. Bon, voilà, on a baissé la dette de la France. Par parenthèse, lorsque j'ai quitté Merci, l'Allemagne était à 67% d'endettement par rapport au PIB, et la France était pratiquement à 60%. Hein. Oui, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Comme quoi, il s'est passé quelque chose, je sais plus quoi, entre 2007 et 2012, mais enfin, il s'est passé quelque chose qui a malheureusement inversé.
Vous étiez à Harvard. Vous étiez à Harvard.
Il y a une crise. Elle était la même des deux côtés du Rhin. La France a fini à 90% d'endettement et l'Allemagne à 70%.
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais que vous étiez à Harvard.
Non, il y a peut-être eu un président de la République qui n'a peut-être pas géré exactement comme en tout cas c'est mon opinion. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, comme on aurait dû le gérer. Mais enfin ça c'est un autre sujet. Donc maintenant pour revenir à la dette, oui, nous sommes dans un moment singulier. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est indispensable pour éviter la destruction. Pour ce moment conjoncturel, ça va durer combien de temps? 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, peut-être un peu plus. Mais voilà, pendant cette période, personne n'est responsable de cela. C'est pas comme si vous aviez des entreprises qui avaient été mal gérées ou je ne sais quoi. Personne n'est responsable de cette situation. Quand vous avez un bar, restaurant, un hôtel qui est obligé de fermer et qui doit mettre la clé sous la porte, c'est pas de sa faute. Donc il faut bien qu'on intervienne.
C'est pas de la mauvaise gestion.
C'est pas de la mauvaise gestion. Donc il faut s'endetter. Et vous voyez, je le dis, je suis le premier, j'ai été le premier à le dire, y compris au sein de la commission. Il faut nous libérer des contraintes des 3%, ou des moins 3% de déficit. Il faut nous libérer des contraintes des 60% d'endettement. Beaucoup s'en étaient exonérés, la France la première, hélas. Et évidemment, donner un accès identique à l'endettement à tous pendant cette période. Et donc oui, je dis, il faut vraiment nous endetter parce qu'aujourd'hui les Américains s'endettent massivement et les Chinois aussi. Il faut maintenir la compétitivité. Il faut avoir des plans de relance. Il faut avoir des plans qui permettent d'accroître la productivité, l'innovation plus verte, plus numérique, plus résiliente de notre économie, de notre industrie. Mais encore une fois, ceci n'a qu'un temps. Et derrière, pourquoi nous proposons, et nous avons proposé, et notamment avec mon collègue Paolo Gentiloni, avec Ursula von der Leyen évidemment, un plan tel qu'il a été proposé, 500 milliards de subventions pour intervenir directement pour aider les entreprises qui étaient les plus atteintes. Et puis, un plan de redressement pour les accompagner dans leur innovation et dans l'accompagnement vers le pacte vert et vers plus de numérique ou de résilience. Pourquoi nous avons proposé ce mécanisme? Bien précisément un endettement à 30 ans, parce qu'on espère quand même que ceci, ça arrive une fois par siècle, nous dit-on. Et il est hors de question de pénaliser la génération qui vient tout de suite. Donc on étale massivement, et les marchés nous donnent la possibilité de le faire, la maturité de cette dette, et on trouve des moyens ensuite progressifs aux frontières pour la rembourser progressivement.
Thierry Bourton, une question de Paolo Levi. Vous auriez déjà répondu à la question que voulez-vous poser,
oui,
Paolo.
Voilà. Exactement.
Bon, donc, Thierry Bourton, vous avez anticipé la question de Paolo Levi.
J'en suis désolé.
Nora Amadi.
Alors, on sait que justement sur ce plan de relance dont vous nous avez cité, la notion de résilience, le pacte vert, etc., il y a des conditionnalités qui vont devoir s'opérer en fait pour sauver ces écosystèmes, et vous y reviendrez certainement. Quoi qu'il en soit, dans ces pays qui ne souhaitent pas, qui ne sont pas très allants sur ce plan de relance et sur le fait de participer à cette solidarité européenne, beaucoup souhaitent une forme de conditionnalité extrêmement stricte. Est-ce que c'est le retour de la Troïka en Europe, Thierry Breton ?
Certainement pas. Et du reste, vous avez vu toutes les discussions qui ont eu lieu sur le mécanisme européen de stabilité, dont je rappelle qu'il avait été imaginé à l'issue de la crise des dettes souveraines pour précisément faire face à des situations d'extrême tension sur les spreads, les obligations, les OAT, donc les obligations à terme que pourraient émettre des États et qui pourraient se trouver dans des difficultés. Donc ce MES, ce fameux MES, a été, revisité, détourné de sa fonction première pour intervenir désormais auprès des États et notamment pour soutenir des initiatives dans le domaine de la santé. Et là, effectivement, il y avait de la conditionnalité et notamment la Troïka à laquelle vous faisiez référence. Donc il n'y aura pas de conditionnalité de cette nature, je le dis très clairement ce soir, et pas de Troïka, pour l'accès à ces financements. En revanche... C'est très important. En revanche, voilà la proposition qui est faite par la Commission pour que, effectivement, l'argent soit acheté par les fenêtres. Et c'est clair, c'est quand même beaucoup d'argent, même si on va mettre 30 ans pour le rembourser progressivement avec les mécanismes que j'ai indiqués, c'est énormément d'argent, et croyez-moi, il ne sera pas acheté par les fêtes, et ça se fera, et c'est pour ça, ça se fera dans le cadre du budget de l'Union, qui lui-même est sous le contrôle du Parlement. Et pour moi, c'est très important. Les montants sont significatifs, très significatifs, il est très important, nous sommes une grande démocratie, l'Europe, il est très important que ceci se fasse sous le contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle du peuple. Alors maintenant, comment ça va se passer? Chaque État membre doit faire, est en train de travailler désormais, sur son propre plan de relance. Vous voyez, par exemple, en France, on travaille sur le plan de relance. J'ai cru comprendre que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait annoncé qu'il voulait le remettre au début de l'automne. C'est bien. Nous estimons qu'il serait bien que chacun nous le remette courant octobre. Alors, ce plan de relance, il comporte deux volets. D'une part, évidemment, un plan où on va soutenir, on intervient. Je prends un exemple, le chômage partiel. Une nécessité absolue. Et pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure, ce sont les États qui ont décidé de ces mesures sanitaires. Eh bien, ils interviennent, ils n'ont rien demandé. Et il faut reconnaître qu'ils l'ont fait quand même très rapidement, que c'est assez très efficace. En Allemagne, ça s'appelle le Kurzarbeit. C'est curieux du reste, parce qu'en Allemagne, c'est Kurzarbeit, c'est travail court. En France, c'est chômage partiel. Mais enfin, je vous laisse réfléchir à cette intéressante comparaison.
L'Europe unie dans la diversité.
Cette intéressante comparaison. Et en tirer les conclusions que vous voudrez en tirer. Mais revenons à un sujet plus sérieux, qui est vraiment le fait que donc une partie de ces plans de relance, c'est de la subvention directe qui va aider soit des employés à ne pas perdre leur emploi et à préserver l'employabilité, ce qui est absolument essentiel pendant cette période, par définition, qui est intérimaire. Et deuxièmement, intervenir également auprès d'entreprises qui auraient besoin de fonds propres pour passer, et de liquidités, pour passer cette situation. Et puis il y a un deuxième volet, qui est le volet, effectivement, alors lui aussi, extrêmement important, qui est investissement dans l'avenir, investissement pour pouvoir, eh bien, je dirais, innover.
Le numérique, le pacte vert. La
transition écologique et la résilience, c'est-à-dire on fait de plus en plus de choses localement, notamment à travers l'économie circulaire, mais pas uniquement. Et donc ces plans, je finis, pardon, j'essaie d'être rapide, ces plans nous sont remontés à la Commission. On le discute dans un dialogue qui fonctionne bien, qui s'appelle le semestre européen. Mais vos auditeurs ont l'habitude, puisque vous êtes une émission...
Mais tout de même.
Vous êtes une émission sur l'Europe. Le semestre européen, c'est une rencontre qui se fait tous les semestres entre la Commission et les États pour vérifier l'avancée donc des plans de redressement,
des plans de dérapage.
Il y a pas trop, mais pas que ça. C'est aussi les réformes structurelles. C'est aussi, et pour aller dans un sens également, les règles qui sont liées à ce qui est très important pour nous, c'est l'état de droit, rule of law. C'est très important de vérifier qu'évidemment il n'y a pas de décalage dans tout ça. Et ça se fait dans le cadre du semestre européen. Donc c'est dans le cadre de ce dialogue qui fonctionne bien que seront remontés ces plans. À ce moment-là, on verra, on nous discutera. Est-ce qu'ils sont assez innovants, est-ce qu'ils vont bien dans les logiques que nous avons énoncées dans le plan industriel que j'avais présenté moi-même du reste le 10 mars, vous vous en souvenez, juste avant, vous vous en souvenez. Et donc, le pacte vert, le numérique, vous l'avez rappelé, la résilience. Et puis, si on voit que tout ça va bien, eh bien, à ce moment-là, on refinancera les États, partie donc en liquidité qui vont donc compenser ce qu'eux-mêmes auront mis donc en subvention. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir ces subventions, c'est tellement important. Et partie, évidemment, en accompagnement de plans sur l'avenir, donc sur 5, 10, 15 ans, pour moderniser notre économie.
Question de Paolo Livi. Cette fois-ci, j'espère, Thierry Breton, que vous n'avez pas répondu par anticipation à la question que Paolo Livi va vous poser.
Non, bah écoutez, non, ça me vient à l'esprit parce que il y a quelques jours, il y a 27 associations d'aide aux personnes plus vulnérables, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge italienne, la Croix-Rouge française, qui ont lancé un appel très très fort à la Commission européenne afin qu'elle considère dans le plan de relance aussi des mécanismes d'aide aux personnes plus vulnérables, notamment pour le fait que, disent-ils, il va y avoir une montée en flèche de la pauvreté en Europe. Voilà, qu'est-ce que vous envisagez à ce propos? Merci.
Alors, c'est le volet social. Je l'élargis un tout petit peu. Le volet social des plans qui sont remontés donc et qui doivent être par définition des plans qui sont encore une fois des plans nationaux sera très important. Et on travaille du reste. Je vais vous dire comment nous travaillons. On travaille sur cet aspect des choses. Avec évidemment Paolo Gentiloni, le commissaire à l'économie, avec Nicolas Schmitt, le commissaire donc aux affaires sociales, avec Elisa Ferreira, la commissaire donc à la cohésion, et moi-même. Et donc tous les quatre, donc nous sommes là pour précisément vérifier que ces plans intègrent bien toutes les dimensions, y compris celle-ci. Mais il y a autre chose. Il y a également le fait que, pour précisément avoir un accès plus immédiat, parce qu'on voit bien que dans la situation dans laquelle on est, il faut aller vite. Il faut aller vite parce que l'urgence, elle est maintenant. L'urgence pour les entreprises qui souffrent et qui risquent de mettre la clé sous la porte, c'est maintenant.
Pour ceux qui sont au chômage.
L'urgence pour ceux qui sont au chômage, c'est maintenant. Et l'urgence sociale pour ceux que M. Lévy venait de nous rappeler, c'est maintenant. Donc il faut vraiment intervenir maintenant. Nous, derrière, on va intervenir pour compenser. Je vous donne un exemple. Et si jamais on peut le faire avant, on le fait avant. On a créé un fonds qui s'appelle le fonds SURE. S-U-R-E, et qui permet, tous les pays ne disposent pas
de liquidité.
Non seulement de la liquidité, mais surtout d'assistance au chômage partiel, comme la France ou l'Allemagne, par exemple. Et donc, pour ceux qui n'en avaient pas, on a monté ce fonds qui permet de redistribuer 100 milliards d'euros, excusez du peu, pour pouvoir précisément compenser ces écarts. Donc on a des fonds de cette nature, on en a un autre qui va être créé en septembre, qui s'appelle Solvency, qui aura une force de frappe de l'ordre de 300 milliards pour intervenir directement et faire le pont, entre guillemets, entre la situation maintenant où il faut intervenir tout de suite, certains États ont la possibilité de le faire, et d'autres, donc le feront un peu après. Donc pour cela, on leur dit, allez-y, et nous, on peut intervenir déjà tout de suite. Ce sera comptabilisé, évidemment, dans ce qu'on leur redonnera ensuite. Et on espère que tout se déroulera bien. Et pour terminer, vous voyez, quand vous expliquez tout ça, eh bien, croyez-moi, le dialogue avec les quatre États que vous parliez, dont vous parliez tout à l'heure, qui sont confrontés au même problème, qui vont bénéficier, eux aussi, de tout cela, qui ont besoin également, eux, du fait que le marché intérieur ne soit pas disloqué par cette crise, les discussions sont beaucoup plus, beaucoup moins passionnées et beaucoup plus réalistes. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur la façon dont nous allons atterrir cette discussion.
Alors, quatre États, il en manque évidemment un qui est parti, le Royaume-Uni. Est-ce que l'ambitieux plan de relance que propose la Commission européenne, que vous avez largement développé, Thierry Breton, aurait été possible si le Brexit n'avait pas eu lieu, si le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne? On va faire un détour par la rédaction du Courrier international. Bonjour, Sacha Mitchell. À la question, est-ce que le plan de relance aurait pu voir le jour si les Britanniques étaient encore dans l'Union européenne? Pour les The Economist, clairement non.
Oui, Daniel. Et pour commencer, le magazine économique nous invite à faire un peu de politique fiction. Imaginez un instant. En 2016, une majorité d'électeurs britanniques votent pour rester dans l'UE. Quelques années plus tard, survient une pandémie, celle du Covid-19. Le pays entre dans une récession historique. Et là, Bruxelles propose un plan de relance. Son montant, 750 milliards d'euros à destination des pays du sud de l'Europe, financé par un emprunt commun et intégré au budget européen. Ça ne fait aucun doute, Londres s'y oppose frontalement, hors de question pour les Britanniques d'y participer. Mais vous le savez, c'est de la fiction, le Brexit a eu lieu et ce voisin toujours prompt à freiner des quatre fers dès qu'il était question d'une plus grande intégration, eh bien il est parti fin janvier. Car c'est bien cela que ce plan de relance reflète, un pas de plus vers une plus grande intégration, une Union toujours plus étroite. Alors attention, le départ des Britanniques ne résout pas tout. Il reste des récalcitrants. Les quatre frugaux, comme on les appelle, à savoir l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark, se montrent critiques du plan. Ils exigent notamment que les aides ne soient pas des dons, qu'elles soient remboursées et qu'elles s'accompagnent de solides engagements en matière de réformes économiques. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que chaque État membre aura un droit de veto dans les discussions à venir. Mais sans le soutien de Londres, ces quatre tenants de la rigueur, qui ne pèsent que 10% de la population européenne, rappelons-le, se retrouve sans alliés de poids. La dynamique a changé, souligne The Economist. D'ailleurs, ces pays, ils ont même intérêt à se ranger derrière les gros États, France et Allemagne en tête, qui sont tous partants. Prenons la Suède, par exemple. L'UE représente 70% des exportations suédoises. Si la zone euro est en feu, la Suède ne sera pas épargnée. Un compromis est donc bel et bien possible, veut croire The Economist. Les discussions s'annoncent encore âpres, mais au bout, les quatre frugaux pourraient conserver leur rabais. Ces systèmes complexes qui permettent aux contributeurs nets de l'UE de récupérer de l'argent. Les Européens de l'Est, eux, garderaient leurs généreux transferts. Et pour finir, l'Italie et l'Espagne obtiendraient ce fonds de relance tant attendu. Et tout ça grâce à qui? C'est l'ironie, grâce au Royaume-Uni, grâce au Brexit.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, les sites. Thierry Breton, bye bye les Anglais, merci de nous avoir quittés. Est-il politiquement incorrect de dire que ce plan de relance est le premier bénéfice du Brexit pour les Européens?
Alors, pour nos auditeurs, nous venons d'assister à ce qu'on appelle une uchronie. Une uchronie, c'est-à-dire que, voilà, et si jamais l'histoire était différente. Et si jamais Napoléon n'avait pas décidé de revendre la Louisiane? Voilà, c'est une autre uchronie. Voilà, l'histoire est faite d'uchronies, de rendez-vous manqués. C'est ça, la vie des hommes. Bon, alors voilà, donc maintenant, plus sérieusement, il y a un point que je retiens dans ce qui vient d'être dit. D'abord, vous voyez que finalement, The Economist a dit avec ses mots, et un peu plus british, j'allais dire, la même chose que moi, c'est-à-dire que ça va converger. Et c'est vrai que derrière, je dirais que qu'on le veuille ou non, le fait que l'Allemagne ait décidé d'opter pour la proposition qui a été mise sur la table change évidemment l'ensemble de la logique. Et voilà, c'est ça ce qui va faire basculer les choses. Derrière, sur la Grande-Bretagne, moi je voudrais juste dire une chose. Vous savez, c'est un drame ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ça fait 4 ans que ce pays est à l'arrêt. 4 ans. Et qu'il rentre dans la crise la plus profonde de notre histoire contemporaine, dans une situation épouvantable, politiquement, mais aussi démocratiquement. Un pays fracturé. Et évidemment, économiquement. Le Royaume-Uni, dont on parlait tout à l'heure, est-il aussi uni
que cela ? Désuni, bien sûr.
Et vous voyez, non seulement ça ne me réjouit pas, mais ça m'attriste et ça m'effraie pour la Grande-Bretagne. Parce que s'il y a une chose que je pense nos concitoyens européens ont compris au fond de cette crise, c'est que désormais, la vraie échelle pour le monde qui vient, c'est un continent. Plus rien ne pourra se traiter si on n'est pas un continent. La science, la médecine, la santé, l'économie, l'endettement. Et ça me fend le cœur, moi qui ai tellement d'attache avec ce pays, de voir qu'il est, oui, je pense, qu'il est perdu.
Alors, justement, cette crise sanitaire et économique a mis en évidence, et vous le disiez, vous commencez à le dire, les faiblesses de l'Europe. Des masques, il n'y en avait pas assez, en tout cas, pas assez. Des composants de base de l'industrie pharmaceutique étaient produits en Chine, en Inde, on l'a découvert, en tout cas, les Européens l'ont découvert. Bref, la souveraineté de l'Union européenne a été battue en brèche. Est-ce que ce qui se passe, l'économie du Covid-19, c'est l'occasion pour les Européens d'une prise de conscience?
Alors, cette prise de conscience, elle était déjà assez ancrée dans les esprits. Du reste, puisqu'on a fait référence tout à l'heure au plan industriel que j'ai présenté, vous vous souvenez que le fait que dans ce plan, nous indiquions déjà qu'on était peut-être allé trop loin dans certains aspects de la mondialisation, de la globalisation, et notamment de l'approvisionnement de chaînes de valeur critiques, et qu'il fallait commencer à réfléchir dans la perspective d'une autonomie accrue. Parce que c'est ça dont il s'agit, d'une autonomie accrue de l'Europe, de l'Union européenne. Il fallait effectivement commencer à réfléchir à rapatrier un certain nombre de fabrications clés.
Qu'est-ce qu'on peut rapatrier ? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas rapatrier ?
Alors aujourd'hui, d'abord, il y a ce qu'on peut faire. Vous faisiez référence aux masques. Moi, je suis bien passé pour vous dire que, et je l'ai dit tout à l'heure, quand la crise frappe la Chine, elle n'est pas prête. Et en 3 mois, elle va monter une industrie de masques suffisante pour ses besoins entre le mois de janvier, sans doute décembre, parce que les informations étaient sans doute connues bien avant janvier.
En tout cas pour les dirigeants chinois.
C'est ce qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui. Et je dirais le printemps. Ben, ils ont monté une industrie de masques en reconvertissant des chaînes d'industrie textile. Ben, vous savez, j'ai fait exactement la même chose. Dès le 10 mars, lorsque on a vu que la pandémie était déclarée, enfin l'épidémie plutôt, passait au stade de pandémie par l'OMS, j'ai pris moi-même mon téléphone, j'ai appelé les usines, il n'y avait que 10 usines de fabrication de masques à ce moment-là en Europe, j'ai demandé qu'on augmente la production, et puis j'ai appelé immédiatement tous les grands industriels du textile, et Daniel Desekel, aujourd'hui, il y a sur le continent européen 500 entreprises qui fabriquent des masques et on est autonome. On a suivi exactement la même courbe d'apprentissage que la Chine. En 3 mois, on est devenu autonome. Vous voyez, il y a quand même une mobilisation qui s'est créée. Alors maintenant, sur les médicaments, ce qui a été effectivement mis en lumière, c'est effectivement que, bon, pour du paracétamol, des médicaments de cette nature, on n'en fabriquait plus en Europe. Bon, alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut aussi multiplier les sources d'approvisionnement plutôt que d'avoir un seul pays qui le fait? Cette question est posée, on va la régler, c'est pas très compliqué. Alors, il y a ensuite les souches, par exemple les souches de médicaments plus spécifiques comme les antibiotiques. Là, c'est certain qu'on va aller, on est allé très loin. Il ne restait plus que deux entreprises qui
avaient la maîtrise
en Europe pour les souches antibiotiques. Je m'en suis entretenu moi-même, croyez-moi, avec les ministres concernés. Et on va maintenant avoir plus d'entreprises qui vont, encore une fois, relocaliser la fabrication de souches. Donc voilà, tout ça, vous savez, cette prise de conscience, on le dit souvent, une crise de cette nature, ça accélère les tendances. Pour moi, l'accélération, elle va aussi dans le sens d'une plus grande autonomie. Certains qualifient même de souveraineté, de résilience de l'Europe. Croyez-moi, il y aura évidemment un avant et un après, y compris pour le regard que nous portons sur le monde et sur la naïveté qui n'est plus de cours aujourd'hui.
Alors,
au sein de l'Union européenne.
Naïveté, l'occasion pour l'Union européenne de s'affirmer va se présenter dès demain avec le sommet Union européenne-Chine. En visioconférence, il y aura Xi Jinping, le président chinois d'un côté, Ursula von der Leyen et Charles Michel de l'autre, le président de la Commission, le président du Conseil. Alors quand on évoque les relations entre l'Union européenne et la Chine, on parle toujours, vous l'avez dit Thierry Breton, de la naïveté des Européens qui ont concédé des transferts de technologies massifs, c'est le cas d'Airbus, qui ont ouvert leur marché public, c'est par exemple le cas du port du Pirée à Athènes, qui ont laissé les Chinois prendre contrôle de certains fleurons de l'économie européenne, c'est par exemple en Allemagne la société robotique KUKA. Est-ce que c'est fini la naïveté des Européens à l'égard de la Chine ?
Je dirais que d'une façon générale, et pour reprendre ce que nous venons de dire, ce qui me semble désormais... Est-ce que c'est fini? C'est un peu rapide de dire fini. Mais ce qui change profondément, c'est désormais la prise de conscience. Et je vais élargir un tout petit peu votre question. Que dans l'évolution du monde telle que nous la percevons, et notamment, n'ayons pas peur de le dire, entre le choc que nous vivions déjà, le choc commercial entre les États-Unis et la Chine, avant la crise, souvenez-vous quand même des mots employés. On était d'abord dans des tensions commerciales. Puis après ça, la gradation est passée à guerre commerciale. Et puis après ça, à guerre froide. On est maintenant dans des logiques quand même qui rappellent des mauvais souvenirs des années 70-80. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Et donc voilà, ça c'est la réalité. Eh bien, dans cette confrontation du monde, je vais vous dire une chose, et c'était l'objet de la tribune que nous avons écrite le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, et moi-même. L'Union européenne ne sera pas le champ de bataille de cet affrontement-là. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous allons affirmer de façon extrêmement claire les règles qui sont les règles. Tout le monde est le bienvenu. Mais on affirme nos règles. Et on les durcit si on estime notamment que ce qui avait été promis n'a pas été tenu. Ça a été le cas notamment, vous savez, avec des partenaires commerciaux, dont la Chine, où on a, c'est vrai, ouvert notre marché. Il y avait une réciprocité qui était attendue. Force est de constater qu'elle n'est pas là. Eh bien ça, voyez-vous, c'est terminé. Et c'est tout l'objet du livre blanc que nous avons présenté. Ma collègue Margret Vestager, qui est la commissaire en charge de la concurrence, et moi-même, pas plus tard que mercredi dernier, dans lequel nous allons durcir très sensiblement l'analyse des aides d'État dont pourraient bénéficier les entreprises, y compris chinoises, mais pas que, qui veulent bénéficier du marché intérieur. Bienvenue, mais pas si c'est à coup d'aides d'État et donc que vous faussez la concurrence. Le rachat d'entreprises, bienvenue, mais pas si c'est grâce à des aides d'État indues, voire participer à des appels d'offres. Je rappelle quand même que l'Union européenne émet 2 000 milliards d'euros d'appels d'offres par an.
Et que les Chinois
public,
y ont accès.
Et ben maintenant, ils y auront accès s'il n'y a pas d'État indu dans les entreprises.
Mais Thierry Breton, on entend Nora bien Hamadi. Votre
Arte.
Volonté, on entend bien votre
volonté
de la Commission européenne, on entend effectivement qu'il y a un changement de paradigme au sein de la Commission. Quoi qu'il en soit, autour de ces questions en fait de réciprocité, de naïveté, appelons-le comme on le veut, il y a aussi en fait des fractures européennes. Il y a aussi des États. Vous nous dites on va faire, on va changer, etc. Vous avez aussi des États et des capitales à convaincre qui ne veulent pas de ce changement de paradigme et qui ne sont pas d'accord pour verser dans ce qu'ils appellent eux une forme de protectionnisme. On voit bien donc que On peut avoir des volontés au niveau de la Commission européenne, et vous nous les affichez, mais vous avez aussi des États à convaincre, en l'occurrence le Conseil, et en l'État, là aussi, vous n'avez pas de majorité. Comment vous allez leur plier le bras à ces États-là ?
Je rappelle qu'une majorité, c'est 50%. On est très largement au-dessus. Je le redis encore une fois parce qu'on l'oublie. Vous voyez, il faut toujours être précis quand on parle politique, et quand on parle politique et démocratie. Qu'est-ce que vous êtes en train de me décrire, madame ? Vous me décrivez tout simplement un processus démocratique. Pardon, mais je vais vous reprendre la comparaison avec un autre continent. Il faut qu'on se compare de plus en plus à ce continent, en taille. On a 450 millions d'habitants, eux c'est 320 millions, vous voyez à qui je fais référence, les États-Unis. En puissance économique, on est le premier marché mondial. En capacité d'innovation, ben voilà.
Mais pas en gouvernance, nous ne sommes pas une fédération.
Bien sûr, nous ne sommes pas une fédération, mais en gouvernance démocratique, si. Et c'est là ce que je voudrais en venir. Vous avez aux États-Unis la chambre des représentants, vous avez évidemment qui représente le peuple, hein, c'est le Parlement. Vous avez le Sénat qui représente les États. Bon, bah il y a deux membres de chaque État qui siègent au Sénat. Bah, nous c'est pareil. On a le Parlement européen qui représente le peuple et on a le Sénat européen qui représente les États. La seule différence c'est que nous on a un représentant par État. Et derrière vous avez l'exécutif. L'exécutif ça s'appelle la Maison Blanche. Aux États-Unis, ça s'appelle la Commission européenne à Bruxelles. Et cet exécutif, eh bien, il navigue entre ces deux pour faire avancer ses lois, comme à Washington. Donc, si vous voulez faire une comparaison, c'est comme à Washington. Regardez combien il faut de temps pour faire des navettes, pour faire accepter des budgets aux États-Unis. Donc, patience, on y arrivera. C'est notre démocratie, c'est ce qui fait notre force, notre fierté. On y est très attaché. Et donc, plutôt que de dire « Ah, mais l'Europe, les divisions », on devrait dire « Quelle chance on a ?» d'avoir un système démocratique comme ça, même si ça prend un peu plus de temps, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus solide de ce qu'on est construit depuis 70 ans.
Vous n'empêcherez pas le gouvernement suédois d'aller, par exemple, prendre du matériel chinois.
Eh bien, voyez-vous, eh bien, je ne suis pas d'accord. Prenez l'exemple de la 5G. On en a beaucoup parlé. Et c'est un exemple très illustratif de ce que vous dites. Eh bien, lorsque je suis arrivé, c'était un peu une cacophonie, y compris par rapport à ce que vous disiez, certaines entreprises chinoises faisaient effectivement, et je ne leur reproche pas, elles faisaient leur travail, elles faisaient leur métier, d'aller voir les uns les autres. Et bien on a dit, c'est fini. Maintenant, on se met autour de la table et on crée une boîte à outils, une toolbox, dans notre jargon. Et dans cette toolbox, on va définir ce qui qualifie un fournisseur à très haut risque, parce que la 5G, attention, c'est pas la 4G, hein. La 5G, c'est faire fonctionner des hôpitaux, faire fonctionner des villes, faire fonctionner des infrastructures extrêmement critiques, c'est autre chose. Des usines, j'en passe, et des meilleures. Et donc là, on peut plus être aussi... laisser passer, on va dire. Non, c'était moins grave. Mais là, c'est grave. Donc, on est tous tombés d'accord, y compris la Suède, madame. Pour précisément, remarquez, ça ne m'étonne pas, ils ont un excellent équipementier de télécom.
Ericsson.
Et je rappelle que du reste, contrairement aux désinformations qu'il y avait, l'Union européenne, j'ai été obligé de le redire, dispose de 60% des brevets mondiaux de la 5G et 60% des parts de marché. Donc on n'a pas besoin non plus d'aller systématiquement écouter tout ce qu'on nous dit. Mais on est tombé d'accord. Ça n'a pas été simple, mais finalement on est tombé d'accord. C'est la force de notre démocratie.
Alors Thierry Breton, on arrive vraiment au terme de cette émission. J'aurais bien aimé vous parler un peu du tourisme. Je vais pas avoir le temps, mais où allez-vous passer vos vacances? Ce qui serait une indication pour nos auditeurs, en France, en Europe ou plus loin?
Je vais aller certainement en France.
Voilà. Par commodité, par
goût. Non, j'aime bien. J'aime bien y aller.
Prudence, parce que les frontières risquent d'être fermées.
Je vais essayer d'aller marcher dans le centre de la France. J'adore ça.
Bon, nous serons
quelques jours.
Mais voilà. Thierry Breton, merci beaucoup d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Nora Hammadi, Arte et Vox Pops. C'est dans exactement 7 minutes sur Arte. Merci à Paolo Livi de l'agence italienne ANSA et à Sacha Michel de Courrier International. Réalisation audio Luna Tumbal, vidéo Swell Kedir. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, bien, le site rfi.fr, rubrique podcast. Pour revoir la vidéo, la page Facebook Carrefour de l'Europe. On reste bien sûr en contact. Vous pouvez nous retrouver sur Google, Apple, Deezer, Daniel Desescalos, que vous soyez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Et tout de suite, un nouveau journal présenté par Loïc Bussière. Au revoir.